C'est fou ce que la psychiatrie a changé.
L'homme qui n'entend pas la musique pense que le danseur est fou.
Les boulons.
Les boulons.
Les boulons.
L'émission des boulonnais.
Bonjour à tous, bienvenue à la 99e émission des boulons, l'émission des boulonnais. J'ai le plaisir d'animer cette heure d'émission avec Luc, à côté de moi. Bonjour Luc.
Bonjour Vanessa.
Alors aujourd'hui, on va vous proposer d'écouter un peu de sport, c'est-à-dire le foot avec Jean-Claude.
Bonjour.
Bonjour Jean-Claude. Ah oui, j'ai oublié de dire, il y a Yannick dans les studios et Cédric à la technique et bien sûr les chroniqueurs habituels. On écoutera aussi l'interview que Julien va faire pour un futur psychologue qui s'appelle Axel. Ensuite, on aura une pause musicale.
De Hervé Villard, ce n'est rien. Une reprise d'ailleurs de Julien Clerc.
Ouais, une reprise.
Ah oui, c'est une reprise.
Ouais, une reprise.
C'est une reprise.
Faudrait regarder les dates pour être
ouais,
sûr.
Non,
mais c'est, on va sûr, vérifier.
C'est sûr.
On
est sûr. D'ailleurs, les auditeurs l'ont bien compris voilà. Eux-mêmes. Hein.
Tout à fait.
Alors ensuite, après, il y a Yannick qui va nous faire une petite surprise. Je n'en sais pas plus. Ensuite, bien sûr, il y a l'atelier cuisine, les conseils culinaires de Fernande. Ensuite, il y a encore une pause musicale. On va écouter Florent Pagny. Le titre, c'est « Toi et moi ». Et un peu de géographie. Michel va nous proposer un quiz, voir un peu notre niveau hors scolaire en géographie. Et bien sûr, Hugo qui va nous lire ses recherches sur l'Égypte. Voilà. Et une dernière pause musicale choisie par Yannick. C'est Marie Giblige, et je ne sais plus le titre.
Moi non plus.
Ce sera une surprise.
Voilà, et on va conclure cette émission aussi avec d'infos diverses dans le Boulonnais et les alentours. Voilà. Alors, on va laisser place, du coup, à Jean-Claude, qui va nous parler du LOSC. Bonjour Jean-Claude, est-ce que le LOSC, c'est quelle ville ?
Le Nord.
Le Nord ? C'est Boulogne-sur-Mer, non ?
La ville.
Non, c'est le...
La ville.
La ville ?
La ville.
C'est Lille.
Voilà.
C'est Lille.
Ah, d'accord.
Bon, bah, qui est la capitale ?
Des Flandres.
Merci. Alors, quel est l'entraîneur du LOSC ?
Alors, le manager est Bruno Genesio.
Où joue le LOSC ?
Stade Decathlon Arena, appelé aussi Stade Pierre Mauroy.
Quelle est sa capacité d'accueil ?
50 000 ?
C'est ça. Oh, bien retenu d'accent.
Le stade, le stade.
La capacité d'accueil, 50 000. Magnifique stade, hein. J'espère que tu iras un jour, Jean-Claude.
Jamais été. J'étais à Lens, mais Lille, non.
Qui est le président du LOSC ?
Olivier Létang.
Où s'entraîne-t-il ?
Terrain d'entraînement, domaine de Luchin.
Allez, tu vas nous présenter l'équipe du LOSC.
Alors, le gardien, Chevalier, défenseur, Mendy... Alexandro Ribeiro, deux passes décisives. Gudmundsson, un but, une passe décisive. Meunier, un but, une passe décisive. Diakité, deux buts, une passe décisive. Baker, trois buts. Milieu, Aretson, deux buts, deux passes décisives. Gomez, un but, une passe décisive. Cabella, deux passes décisives. Muco, deux buts. Fernandez Pardo, un but, deux passes décisives. Zegrova, 5 buts, 2 passes décisives. Bouadi, 1 passe décisive. Attaquant, David, 15 buts, 3 passes décisives. Sarawi, 1 but, 3 passes décisives. Bayo, 2 buts, 1 passe décisive.
Alors, comment se comporte cette année le LOSC du point de vue du classement ?
Ils sont 4e, ils ont 29 points, 7 matchs gagnés, 8 nuls, 2 défaites.
Et puis, il me semble aussi qu'ils participent à la Ligue des Champions.
Ils participent à la Ligue des Champions. Ils sont performants en Ligue des Champions. Et le match Real Madrid 0, Lille 1. Atlético Madrid 1, Lille 3. Lille 1, Juventus 1, Bologne 1, Lille 2.
Donc on peut dire qu'ils sont bien placés.
Ils sont bien placés pour se qualifier.
Pour se qualifier, c'est
pour
ça.
Pour les 16e, ouais. Le 16e et peut-être même les 8e de finale direct.
Les places vont se vendre cher alors pour aller voir le LOSC. Pour aller les voir
en
Ligue des Champions. Et le prochain match de championnat en février, vous savez quel jour ça a lieu, non?
C'est cette semaine.
Non, pas du tout. Le 2 février, c'est rigolo parce que le LOSC reçoit Saint-Étienne. Saint-Étienne, c'est quand même un club qui nous a fait vibrer quand on était gamins. Hein. Enfin, surtout moi, pas vous peut-être. Mais... merci beaucoup, Jean-Claude.
Merci.
Merci à tous les deux. Nous allons continuer avec l'interview de Julien, avec Axel, qui est étudiant psychologue. À vous, Julien.
Bonjour à tous. Alors, je vais interviewer Axel, donc, comme ça a été dit. Et je vais commencer par une question d'ordre plutôt général. Donc, peux-tu te présenter, Axel ?
Oui, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Axel. Je suis en études de psychologie. Donc, je suis en quatrième année, donc ça équivaut à Master 1. Et je suis à l'Université de Lille.
Il n'y a pas de souci. Je vais laisser la parole à Raphaël pour une question.
Quel parcours de formation fais-tu ?
Donc moi, j'ai un parcours un peu atypique. J'ai fait 2 ans de licence de biologie sur Calais à l'université LULCO Littoral Côte d'Opale. Et je me suis réorienté en études de psychologie. Donc en fait, il faut faire 3 ans de licence. On a une sélection après notre 3e année de licence pour passer en master. Donc de mémoire, il y a 11 masters à Lille. Moi, j'ai choisi... thérapie comportementale et cognitive pour mes études, donc Master 1 et Master 2. Et à l'issue de ces 2 années, j'aimerais être psychologue.
Il n'y a pas de souci. Donc,
À ton compte
Ça, c'est une question.
C'est la suite.
C'est une prochaine question.
Désolé.
Mais c'est bien en même temps. Pour...
Donc, du coup, là, c'est une question que je rajoute. Qu'est-ce que tu pourquoi tu as arrêté tes études de biologie du coup ?
Y a eu la période Covid qui m'a un peu démotivé malheureusement et en fait en sortie de lycée je ne m'étais pas vraiment intéressé aux débouchés que pouvait avoir une licence de biologie et au final je me suis rendu compte que ça me plaisait pas du tout. Je me voyais pas travailler en laboratoire ni être prof d'SVT ou de biologie à la fac par exemple.
Ok. En quoi consiste le métier et quelle est ta spécialisation du coup ?
Le métier de psychologue, comme on se l'imagine un peu, donc c'est la prise en charge de patients qui viennent pour diverses raisons. Ma formation, elle consiste en fait, donc thérapie comportementale et cognitive, c'est une branche de la psychologie qui va vraiment être dans la collaboration avec notre patient, en fait, on va être susceptible de lui demander de faire des exercices chez lui. Et le but final, c'est de rendre indépendant le patient. On ne veut pas du tout ce côté que le patient ait besoin de nous, même lorsqu'il n'a plus besoin de consultation, par exemple. Et du coup, on veut vraiment le rendre indépendant. Et par exemple, s'il rencontre divers problèmes dans sa vie, qu'il puisse être capable de résoudre lui-même les problèmes grâce aux exercices qu'on lui a donnés au préalable en consultation.
D'accord, donc Freud, Lacan, tout ça, c'est quand même étudié ou...
Pas du tout. Non. C'est vraiment l'opposé de la psychanalyse.
Ok, d'accord. Raphaël, je ne sais pas si tu veux poser une question.
Comment se déroulent les stages en tant qu'étudiant psycho ?
Donc du coup, en 3e année, j'ai dû faire 70 heures de stage, ce qui est très peu. En première année de master, du coup, on nous demande 210 à 350 heures de stage pour valider notre master 1. Et on est encore dans de l'observation, mais en fonction de comment on se sent, on peut, par exemple, prendre en charge un premier entretien, donc anamnèse, donc l'anamnèse, donc ça va être l'histoire du patient. Mais on ne va pas être dans la thérapie pure. La thérapie, ça va être plus en Master 2. Donc, on nous demande 500 heures de stage pour valider notre Master 2. Et là, ça va vraiment être prendre en charge des patients, les consultations au fil des semaines.
Et là, le fait que tu sois ici, ça compte comme des heures de stage ?
Oui.
Oui, il est en stage avec nous, à côté, avec une psychologue.
Oui.
Qui est orientation TCC.
On est dans l'obligation voilà. de... faire nos stages avec une psychologue qui pratique donc les thérapies comportementales et cognitives pour valider notre master de thérapie comportementale et cognitive.
Est-ce que vous pouvez parler un petit peu justement de ces thérapies comportementales et cognitives ?
Bien sûr. Après, qu'est-ce que vous voulez savoir vraiment
Parce que c'est des termes assez techniques. Est-ce que vous pouvez justement, pour une personne lambda, expliquer un petit peu ce que c'est ?
Du coup, les thérapies, elles vont vraiment se centrer sur les cognitions des patients, donc les pensées.
Un peu moins, déjà thérapie. Qu'est-ce que c'est qu'une thérapie ?
Une thérapie, pour moi, ça va être une prise en charge d'un patient qui va venir nous voir en consultation pour une certaine demande, donc ça peut être une souffrance, et on va vraiment essayer de recentrer la thérapie en fonction du patient, vraiment l'individualiser, et on va vraiment tourner nos thérapies autour donc de ses cognitions, donc ses pensées, les comportements qu'il peut faire, et aussi les émotions qu'il peut le ressentir.
D'accord, et ça se fait à travers d'exercices, du coup, la thérapie.
On peut, donc, par exemple, un exercice qu'on peut donner, donc quelqu'un qui a une phobie, par exemple, phobie de prendre la parole, on peut lui, par exemple, lui demander de faire de l'exposition. Donc l'exposition, ça va être, t'as des difficultés, demain tu vas aller à McDo et tu vas commander un burger, tu vas pas aller sur la borne pour commander, tu vas directement aller au comptoir et tu vas devoir parler avec la personne qui prend en charge ta commande et vraiment essayer de réduire l'anxiété. En fait, il va être exposé à l'anxiété et se rendre compte que c'est pas si insurmontable que ça, et au fur et à mesure s'habituer à cette prise de parole qui peut être compliquée pour lui.
D'accord. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui confondent psychiatre et psychologue. Alors du coup, est-ce que tu peux nous expliquer la différence ?
Oui, bien sûr, c'est une très bonne question. Donc un psychiatre, il va avoir fait des études de médecine. Donc les études de médecine avec le concours en première année, et il va venir se spécialiser en psychiatrie pour être psychiatre, alors que nous on passe dans un parcours plus global avec une licence de psychologie et un master, et en fait le psychologue va être là pour les psychothérapies, alors que le psychiatre il va plus être dans la mise en place de diagnostic en fonction du patient qu'il reçoit, et il va pouvoir attribuer des médicaments pour gérer la souffrance du patient.
Voilà, psychologue, il ne prescrit pas, en fait.
Après, un diplôme en psycho, que peux-tu faire ?
Donc, il y a plusieurs choses. Donc, après mon Master 2, je peux, par exemple, choisir de me spécialiser dans la recherche. Donc, ça va être des travaux de mémoire à réaliser pour écrire à la fin une thèse et être doctorant. Donc, c'est 3 ans d'années supplémentaires pour être doctorant, et on peut être dans la recherche en psychologie, et on peut également enseigner en psychologie, donc être enseignant-chercheur. Donc c'est à moitié travailler sur nos diverses recherches qu'on veut élaborer et donner des cours à la fac en psychologie, et l'autre parcours un peu classique, donc c'est être psychologue. Il y a différents psychologues, donc ça peut être en libéral, donc ouvrir son propre cabinet, en structure, donc à l'hôpital, en CMP, donc c'est une structure qui est rattachée à l'hôpital, et vraiment être dans la mise en place de thérapie et de psychothérapie plus précisément.
Je demande, après toi, être psychologue au sein de la santé mentale, en psychiatrie par exemple, tu crois que tu as une place, tu as un rôle à jouer pour aider les usagers ?
Je pense qu'en allant en psychologie, on a cette volonté d'aider les personnes. Donc oui, j'espère avoir un rôle à jouer, et j'ai tout à apprendre en stage justement pour le faire le mieux possible, en fait.
Est-ce qu'il y a un mémoire à la fin ?
J'ai oublié de le préciser. Donc à la fin de mon Master 1, j'ai un mémoire à rédiger, et à la fin de mon Master 2, j'ai un autre mémoire que là je vais devoir présenter devant un jury. C'est 5 personnes... 5 personnes vraiment spécialisées dans la recherche en psychologie qui viennent vraiment nous évaluer sur notre travail de recherche à faire.
Et c'est quoi le thème de...
Le thème abordé, donc, ça va être nos professeurs, nos encadrants de master qui vont vraiment venir nous dire sur quoi ils veulent travailler, et nous on va dire sur quoi on est intéressé. Moi cette année je vais travailler sur l'élaboration d'un t-shirt intelligent, donc ça va être un t-shirt qui va être capable de capter les émotions des personnes dans le but de prévenir une attaque de panique. Et ça va vraiment être à terme, dès que la personne va ressentir les premières émotions d'une attaque de panique, elle va être mise au courant pour mettre en place directement les choses nécessaires pour réduire l'anxiété et réduire l'attaque de panique qui va venir.
Ouais, tu veux travailler chez Kiabi, quoi.
Bon, on est en collaboration avec l'ANSET, donc c'est une école d'ingénieurs qui est vraiment spécialisée dans le textile et elle est située à Roubaix. Et, ça peut être Kiabi, ouais. On peut travailler à Kiabi.
Mais c'est vrai qu'il y a des outils, le casque virtuel, entre autres, ouais. Qui est également utilisé pour tout ce qui est phobie, etc.
L'exposition, voilà. L'exposition, ouais. Justement, par exemple, on peut les mettre en situation, une ouais. personne qui a vraiment la peur du vide,
voilà,
on peut la
mettre exemple,
au-dessus d'un immeuble. Quoi,
exactement.
Là, c'est vraiment intéressant.
C'est vrai que les outils, ça permet aussi d'avancer quelque part. Quoi. C'est, bon. Ça peut être aidant.
On a vraiment, en psychologie, l'idée que les TCC, c'est vraiment une boîte à outils. Et OK, quelqu'un qui a une phobie, on va lui faire ça. Mais moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'on a une multitude d'outils qu'on peut utiliser et vraiment individualiser la thérapie à la personne. Et c'est vraiment très intéressant. C'est un peu se casser la tête parce qu'on doit trouver les meilleures solutions possibles. Et je trouve ça vraiment intéressant.
Ok, bah moi j'avais une dernière question, mais je crois qu'on y a déjà répondu. Qu'envisages-tu après tes études ?
Moi, le côté recherche, pas que ça ne m'intéresse pas, mais c'est beaucoup plus difficile de trouver un poste d'enseignant-chercheur justement à la fac. Et moi, je suis venu en psycho pour être psychologue et j'aimerais travailler en structure au début. J'aimerais bien travailler à l'hôpital pour mettre en œuvre ce que j'ai appris et travailler au sein d'une équipe. Et vraiment me former aussi, parce qu'on se forme sur le terrain. Et à terme, ouvrir mon cabinet libéral, je ne sais pas encore où, mais voilà.
Merci. Alors, on va écouter du coup un petit morceau musical. C'est un titre que j'ai choisi. Hein. C'est Hervé Villard qui chante le titre « Ce n'est rien ».
Une reprise.
De Julien Clerc.
Julien Clerc.
C'est une reprise. Hein.
Il lâche pas le morceau.
Ce n'est rien. Tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux. Et soudain, ça revient pour un bateau qui s'en va et revient. Il y a mille coquilles de noix sur ton chemin qui coulent et ça c'est très bien. Et c'est comme une tourterelle qui s'éloigne à tire-d'aile en emportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe. Ce n'est rien, tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux. Et soudain, ça prévient, comme un bateau qui revient. Et soudain, il y a mille sirènes de joie sur ton chemin qui résonnent et c'est très bien. Et ce n'est qu'une tourterelle qui revient à tire-d'aile en rapportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. Ce n'est rien. Qui revient et soudain, il y a mille sirènes de joie sur ton chemin qui résonnent et c'est très bien. Et ce n'est qu'une tourterelle qui reviendra à tire-d'aile en rapportant le duvet qui était son nid un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan.
C'est fou ce que la psychiatrie a changé.
L'homme qui n'entend pas la musique pense que le danseur est fou.
Les boulons.
Les boulons.
Les boulons.
L'émission des boulonnés.
Alors, de retour au studio, là. Alors, pour la 99e émission, Yannick a décidé de nous préparer une petite surprise. Voilà. Quelle est-elle ?
Alors, la surprise, c'est... Est-ce que vous savez ce qui se passe le 2 février ?
Vous venez de dire, c'est le...
Non, là, c'est du sport. Mais
c'est la chandeleur.
La chandeleur.
Bravo. Donc, je vais vous faire un petit thème sur la chandeleur. Je vais voir si vous avez un peu de connaissances. Bon. Parce que quand même, c'est important, la connaissance. Que signifie ce mot ?
Chandeleur. Chandelle, chandelier, bougie.
Ah, tu n'es pas loin. Tu n'es pas loin. Hein.
Belle la déduction. Ouais, superbe.
C'est la fête des chandelles.
Ah.
C'est une ancienne fête païenne et latine, devenue une fête religieuse catholique, correspondant à la présentation de Jésus, son temple et sa reconnaissance par Siméon. Vous savez qui c'est, Siméon ? C'est un personnage, je vous dis, hein, c'est un personnage de l'Évangile. Et Siméon, c'est Simon, en fait. Et ça, la Saint-Simon, c'est, oh, surprise, le 3 février.
Ah, le 3, le lendemain.
Ah. Le lendemain, voilà. Et en fait, ça révèle la lumière qui se révèle aux nations. C'est, ça, c'est ce que ça veut dire, hein, la reconnaissance par Siméon, et comme la lumière qui se révèle aux nations. C'est l'une des 12 grandes fêtes liturgiques célébrées par l'Église orthodoxe. Quand a-t-elle lieu ? Exactement, il y a une signification. Ce n'est pas un hasard si c'est le 2.
Quand a-t-elle lieu ?
Ouais. Comment on calcule
C'est un nombre de jours après.
Alors, je sais que Jésus n'est pas né en l'an 0, il est né en l'an 1.
Alors, c'est pas tout à fait ça. En fait, la chandeleur, c'est 40 jours après Noël, après le 25 décembre.
D'accord.
Puisque avant le début, c'était le 25 décembre.
D'accord.
Bon, voilà. L'étymologie de la chandeleur. Ça vient du latin Festa Candelarum, la fête des chandelles. Que représente Notre-Dame de Candelaria ? Alors, Notre-Dame de Candelaria, c'est la patronne des îles Canaries. Vous savez où c'est les îles Canaries ?
Oui.
En Espagne.
C'est bien. Bravo. Et en fait, dans cet archipel espagnol a commencé l'identification de la chandeleur avec la Vierge Marie. On vous suivez toujours ?
Oui, on est là, on est au taquet.
On suit.
Est-ce que vous voulez savoir ce qu'on faisait dans les églises avec... On a remplacé les torches par des chandelles bénites dont la lueur est supposée éloigner le mal et rappelle que le Christ est la lumière du monde. Les chrétiens rapportent ensuite les cierges chez eux afin de protéger leur foyer. En 1372, cette fête sera également associée à la purification de la bienheureuse Vierge Marie. Alors là, j'ai une question stratégique quand même, parce que je pense que vous devez savoir, surtout cet ETP, parce que quand même, vous faites des crêpes depuis plus de 20 ans. Pourquoi les crêpes sont rondes ?
Pourquoi les crêpes sont
rondes ?
Parce que la poêle est ronde.
Pas du tout.
Aujourd'hui, on dirait ça, ouais.
Moi, je suis quand même dans quelque chose de culte, de culture quand même.
Ça a une signification parce que c'est rond ?
Oui, ça a une signification.
Parce que...
Le monde, le soleil.
Oui, c'est ça, c'est le soleil.
Ah.
Alors, les crêpes sont rondes, leur forme ronde et leur couleur dorée rappelleraient le soleil en fin de retour après la nuit de l'hiver.
Oh, c'est beau.
Voilà. Alors, pourquoi les confections des crêpes à la chandeleur ?
Parce qu'on a de la farine et puis du lait.
C'est pas tout à fait faux quand même. Hein. Car c'est le moment de l'année où les jours s'allongent de plus en plus vite. Voilà, et c'est également le moment où ont commencé les semences d'hiver. Voilà. Alors après, j'ai encore possibilité de vous parler de petits proverbes. Je vous en cite.
Vas-y.
À la chandeleur, l'hiver se meurt ou prend vigueur. À la chandeleur, au grand jour, les grandes douleurs.
Oh non.
À la chandeleur, grande neige et froideur.
Oh.
À la chandeleur, trouve ton âme, sœur. Que du bonheur.
Oh, c'est mignon.
Rosée de la chandeleur, l'hiver à sa dernière heure.
Ah.
Et chandeleur à ta porte, c'est la fin des feuilles mortes. Voilà.
Oh.
Merci pour votre écoute.
Merci. Je penserai à vous quand je ferai des crêpes le dimanche. Moi, j'adore faire
un rayon de soleil dans ta vie, des crêpes.
Oui, voilà. Merci beaucoup. Alors, ben, justement, continuons dans l'esprit de cuisine. Ben, du coup, là, c'est Fernande qui va nous faire une petite recette. Je ne sais pas quel est le plat, Luc.
Ah, c'est, je vous laisse la surprise. C'est Féfé qui va vous en parler.
Poireau.
Sucré.
Cassonade.
Chocolat.
Confiture.
T'es là.
La recette du jour.
Alors bonjour à tous, je suis avec Fernande, dit Féfé, qui va nous présenter une recette. Et d'ailleurs, c'est le retour de Féfé. Bonjour Féfé.
Bonjour Luc et bonjour tout le monde. Une revenante des Boulons, la chroniqueuse de la cuisine.
Parfait. Alors, est-ce que...
Meilleurs vœux, une bonne année à tous et surtout la santé. Et je suis contente de revenir avec vous.
Ah ben nous aussi, on est contents de vous revoir. Féfé, qu'est-ce qu'on fait comme recette pour le début d'année?
Bah, la recette du jour, ça va être lasagne aux épinards aux chèvres.
C'est bon. Mais ça.
Jamais là.
Juste après les fêtes, c'est nickel, ça va nous nettoyer les petits intestins, ça va faire du bien. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il faut comme ingrédient, Féfé?
Bah, il faut des feuilles de lasagne pré-cuites, une boîte. Il faut une bûchette de chèvre. Il faut une bonne grosse boîte d'épinards hachés. Puis il faut du miel, un pot de miel et faire la béchamel.
Et du fromage?
Et du fromage râpé, un paquet de sachets râpé.
Ok, bon, on commence par quoi alors, Féfé?
Ben, en premier temps, je vais faire ma béchamel. Je prends une casserole, il faut du beurre, la farine et du lait.
Ok. Et après, on fait notre béchamel.
Oui, on met un morceau de beurre, moi je mets au pif. Après, quand c'est fondu, je mets un peu.
Et je trouve ça où, le fromage, le beurre au pif? Dans quel magasin?
Pif, c'est la margarine. À mon idée, avec la... c'est comme c'est ma béchamel à moi.
D'accord.
Et on met peut-être 50 grammes de beurre. Ça dépend, il faut en avoir assez pour faire les lasagnes. Alors je mets peut-être 50 grammes, 70 grammes. Après, quand c'est fondu dans la casserole, on fait chauffer dans une casserole, on met dans la casserole. Quand c'est fondu, on met la farine. On mélange bien quand ça fait un roux. Et par la longue, on met du lait pour que ça s'épaissit.
D'accord, ok.
Et après, quand c'est bien épaissi, on met du sel et du poivre. Et moi, je mets un peu de muscade.
D'accord. Alors après, qu'est-ce qu'on fait?
Après, on laisse reposer la béchamel. Après, on prend un plat à gratin. On pose un peu de béchamel au fond du plat. Après, on met les feuilles de lasagne. On met un peu de béchamel. Après, une couche d'épinards. Après, on remet des feuilles au-dessus. On fait des piles de lasagne. Après, on met des feuilles. Après, on commence à mettre la béchamel, épinards. Après, encore une troisième couche, pareil. Et on finit, on met des feuilles. On met la béchamel au-dessus avec le râpé. Et après, on coupe des morceaux de chèvre, des rondelles de chèvre. On les dispose au-dessus. Et on met au bout du chèvre, on met un peu de miel sur chaque bout.
D'accord.
Et on met au four.
Alors, à combien de degrés le four?
Moi, je mets à 170.
Ouais.
Et parce que c'est électrique, mon four, je sais pas. Ben, je suis avec quand ça gratine.
Et il faut compter combien de temps à peu près?
Peut-être 40 minutes, 45 minutes.
Parfait. Et on mange ça? Ça suffit à soi-même, il n'y a pas besoin d'autre chose avec ça.
Moi, je mange comme ça, soit qu'une salade. Non, je mange comme ça, moi.
Bah ouais, il y a déjà des apinards, hein, c'est déjà bien. Parfait. Bon, et Qu'est-ce que vous avez à dire de plus, ma petite Féfé?
J'espère que tout le monde va bien et je vous écoute toujours dans la radio.
Alors, Féfé, elle nous dit ça parce qu'en fait, elle n'est pas là physiquement avec nous aujourd'hui. C'est un enregistrement qu'on aura fait préalablement ensemble au CATTP. C'est et bien
je
ça?
Je vais revenir dans le nouveau local parce que ma santé ne permet pas de venir pour l'instant là, en montant les escaliers. Et là, je suis enregistrée avec Luc. Merci à Luc et merci à vous tous de m'accueillir.
Ah ben, c'est avec plaisir. Eh ben...
Je vous fais des gros bisous à tous et je pense très fort à vous.
Eh ben merci bien, Féfé. Eh ben voilà, ça c'est dans la boîte. Okay. Et puis il n'y a plus qu'à.
Eh ben, ça fait plaisir d'entendre la voix de Fernande. Mm-hmm. Hein, et on l'embrasse aussi. Hein,
exactement, on l'embrasse. Un bisou, Fernande.
Oui, on l'embrasse.
Oui, tout le monde vous embrasse, Féfé. Hein.
Voilà, vivement que tu reviennes.
Ouais.
Donc là, on va écouter toi et moi, interprété par Florent Pagny. Une chanson que Cédric a choisie.
C'est fou ce que la psychiatrie a changé.
L'homme qui n'entend pas la musique pense que le danseur est fou.
Les boulons.
Les boulons.
Les boulons.
L'émission des boulonnais.
Alors nous reprenons l'émission des boulons, l'émission des boulonnais, l'émission 99. Je suis toujours en compagnie de toute l'équipe des Boulons, et en particulier Michel qui va nous faire un petit quiz sur la géographie. C'est à vous, Michel.
Oui, bonjour. Je vais changer un peu de rubrique cette semaine.
fasse moi aussi. Je me suis tourné vers la géographie, puis ça me permet d'apprendre en même temps. Première question, dans quel pays est situé Koh Lanta ?
En Argentine.
Non.
Ah non, Koh Lanta.
Non, Koh Lanta, c'est pas...
En Indonésie.
Non.
Non, non.
En Océanie.
C'est le continent.
C'est le continent, ça.
Ah oui, c'est le continent.
C'est pas au large du Vietnam, ouais. Non, dans les îles au
large
du Vietnam.
Ça doit pas être loin, mais...
Ouais, vas-y.
C'est la Thaïlande.
Ah, c'est la Thaïlande. Ouais. Ouais, je le sais.
Où est situé le Taj Mahal ?
En Inde,
oui. Hein, c'est un mausolée en marbre blanc, incrusté de pierres. De pierre édifié au XVIIe siècle par l'empereur Shahjahan, excusez la prononciation.
À tes souhaits aussi.
C'était pour sa femme qu'il avait fait construire ça. C'est près d'Agra, d'une grande ville de presque 800 000 habitants. Où est situé Ushuaïa ?
Là, c'est en Argentine.
C'est en Argentine, oui. Où est située l'île de Java ?
À Java. En Indochine.
Ça, c'est bien commencé.
Indonésie.
Indonésie, oui, c'est ça. C'est la quatrième plus grande île du monde et Antananarivo est ma capitale.
Madagascar.
C'est ça. C'est dans l'océan Indien au large de l'Afrique. Ouais. C'est un village peuplé de 170 habitants qui se situe en Normandie. Et porte le nom d'un fromage.
Camembert,
c'est ça.
Ouais, bravo.
Ouais. Les Jeux Olympiques 2022 s'y sont déroulés. C'est express pour un jeu télévisé français et son autre nom est Beijing.
Pékin ?
Pékin, oui, c'est ça. Oh, mon Dieu. Balèze Pékin.
Ouais.
Alors, le continent le plus au sud de la Terre, ses habitants sont uniquement des chercheurs. La marche de l'empereur y a été tournée.
L'Antarctique,
oui, c'est ça. Alors, c'est une ville fantôme. Elle ne sera habitable que dans 24 000 ans. Et c'est le lieu de la centrale nucléaire de Tchernobyl.
De Tchernobyl, ouais, la ville à côté. Là.
Alors, la ville, je ne sais pas si vous connaissez le nom de la ville.
Non.
Moi, je ne connais pas.
Priat.
Ah, ouais, c'est pas un truc dans ce genre-là ?
Priat.
Oui, c'est ça. Ah. Et c'est en. C'est un pays en guerre actuellement.
En Ukraine.
Ouais. Où est la grande barrière de corail ?
En Australie.
Oui, au large du Queensland, oui, c'est ça. Et où est situé Katmandou ? C'est facile, ça.
Bah oui.
C'est facile. Enfin, quand c'est on a la réponse, c'est toujours facile.
La réponse,
ouais. Il me semble
insulé. Non, mais je savais.
C'est en Inde.
C'est en Afrique du Sud.
En Inde ?
Non, c'est pas en Inde.
Non, c'est au Pérou, en dessous du Pérou.
Non, je sais pas, franchement.
C'est en Asie, mais...
Ah, c'est en Asie.
Julien, je sais pas.
Au Népal ?
Au Népal.
Exact.
Ah, bah voilà.
Exact.
Bah voilà.
Ouais, c'est ça, Népal.
Alors, c'est où ? Alors, la légende raconte qu'un dragon vivait sous le château. C'est la ville de naissance de Jean-Paul II et le film La liste de Schindler s'y est déroulé.
Varsovie.
C'est Cracovie, oui, c'est très bien. Alors, où est situé Pearl Harbor ?
L'océan Pacifique.
Ouais, dans l'océan Pacifique, Pearl Harbor, c'était.
En Amérique ?
En Amérique,
oui.
États-Unis.
C'est sur une île.
C'est au large de la Floride ? De l'autre côté.
C'est pas la Floride.
C'est de l'autre côté, alors.
C'est
de l'autre côté.
En fait, je vais vous le dire, c'est à Hawaï.
Ah.
C'est les USA aussi, mais... La flotte américaine du Pacifique qui fut détruite par le Japon en 1941. Où est situé Hanoï ?
Au Vietnam.
Oui, c'est ça, oui. C'est la capitale du Vietnam, en fait. C'est une chaîne de montagnes qui s'étend sur trois pays d'Afrique du Nord. Son point culminant est le mont Toubkal et a le nom d'un homme destiné à porter le globe terrestre.
Atlas,
ouais, c'est ça. Et dernière question, j'ai pas pu m'empêcher de m'approcher du sport, mais Où est situé le stade Maracanã?
En Argentine.
Non, c'est pas en Argentine.
Au Brésil.
Au Brésil, oui.
Maracanã, c'est
Rio.
C'est Rio.
À Rio de Janeiro. Voilà.
Eh bien, merci bien, Michel. Nous allons passer maintenant avec Hugo sur l'Égypte et les hiéroglyphes.
Merci, Luc. Donc aujourd'hui, oui, l'Égypte et l'Égypte ancienne principalement, parce que l'Égypte moderne, je n'y connais rien. En fait, l'égyptologie, c'est un domaine de recherche, un champ d'étude de la vie en Égypte. En fait, il a été créé par un boulonnais. Donc, c'est Auguste Mariette qui a créé l'égyptologie accompagné de Champollion. Donc, Auguste Mariette, donc, qui est boulonnais, il est né en février 1821 et il est mort en janvier 1981.
Non, 1881.
Vous savez bien que j'aime bien me tromper dans les siècles. Mariette a découvert notamment en 1850 141 sphinx et plusieurs statues, dont le célèbre scribe accroupi. Je crois que Yannick connaît aussi l'histoire de l'Égypte sur le bout des ongles. Bonjour Yannick.
Bonjour Hugo. Alors, je dirai pas ce que je pense parce que nous sommes à la radio. Non, moi, je t'ai dit que j'étais allée en Égypte et que j'avais fait les principaux, la croisière sur le Nil, et donc j'ai vu la vallée des rois.
Donc,
il a participé, puisqu'il y a beaucoup d'égyptologues qui ont découvert des tombeaux dans la vallée des rois.
Ils sont devenus fous, il paraît. Il y a une malédiction autour des pyramides égyptiennes, parce que...
C'est le seul truc que j'ai pas vu, t'as pas de chance.
Elles étaient sacrées et du coup, ils ont percé le secret et ils ont été pris par une malédiction.
J'ai été impressionné par, par ce qu'ils ont bâti, ouais. Rien qu'avec leurs mains, les hommes. Enfin, ouais. C'est incroyable de grandeur, ouais. C'est vraiment incroyable.
Donc les hiéroglyphes, les hiéroglyphes, c'est une unité graphique, donc c'est une sorte d'alphabet en fait. Donc c'est utilisé pendant l'Antiquité comme pour des langues comme l'égyptien. Donc les premiers témoignages hiéroglyphiques suivent de quelques siècles les plus anciennes tablettes sumériennes écrites en caractères cunéiformes. Donc c'est la pierre de Rosette qui a été découverte par Champollion qui a permis de décrypter les hiéroglyphes. On sait lire les hiéroglyphes. Alors, pour info, les hiéroglyphes s'écrivent de droite à gauche, de gauche à droite ou de haut en bas, la direction usuelle étant de droite à gauche. Le lecteur, pour connaître le sens de lecture, doit considérer, attention, c'est très technique, la direction dans laquelle sont tournés les hiéroglyphes asymétriques. Vous avez quelque chose à rajouter ?
Bon, écoute, non, c'est super intéressant.
D'accord. Donc, petite anecdote encore avec l'IA. Vous savez que j'aime bien vous parler de l'IA de temps en temps, l'intelligence artificielle. Donc, il y a un traducteur qui a été lancé par Google qui permet donc de traduire les hiéroglyphes.
Ah ouais, ouais. Alors, ça raconte quoi?
Allez, vas-y.
Je l'ai dit, Cédric, il y a une malédiction qui tourne.
Ah, c'est ça, c'est pour ça que tu parlais, ouais, de cette malédiction.
Faire attention.
Ah ouais.
Ouais. Wow. Donc, pour revenir sur la pierre de Rosette, donc c'est un fragment de stèle.
Pierre de Rosette. Ça me fait penser à la Rosette.
À la Rosette, le saucisson.
Ouais, ouais. Saucisson. Bah oui, ça aussi, c'est maudit. Ça. C'est du gras, c'est pas bon.
C'est,
pas bon.
Ouais. Ouais, c'est peut-être ça. Alors.
Allez dire ça à Raphaël, il mange que ça. Ouais.
La Rosette. Bon, allez, non, sérieux, là, c'est, ouais. On est en Égypte, il n'y a pas de Rosette en Égypte.
Ouais. Bah non, c'est la pierre de Rosette, justement, Yannick.
Oui, j'ai compris.
Ah bon? C'est une stèle gravée qui date de l'Égypte antique.
Ah, mais j'ai entendu. Je te suis, hein. L'air comme ça, mais je suis. Hein.
Ah bon, bon. Donc, en fait, ça a permis donc vraiment de traduire. Et donc, voilà. Donc, okay. Notre Auguste Mariette, boulonnais adoré, fait partie donc des créateurs de l'égyptologie. Pour anecdote, à Boulogne, le musée de Boulogne-sur-Mer, en vieille ville, enfin à côté, oui, de la vieille ville, ouais, a toujours eu une belle exposition autour de,
ouais,
l'Égypte.
Oui, c'est vrai.
Et donc, il y a notamment le cercueil de Néhem Simountou,
ouais,
qui souhait.
C'est ça. Donc c'est cette pièce-là qui a donné envie à Auguste Mariette de devenir égyptologue. Donc c'est un des objets les plus anciens du musée. Donc c'est fabriqué certainement aux alentours de la 25e dynastie. Ah ouais. La vallée des rois.
Oui, la vallée des rois, ça me parle.
Et, mais on ignore sa provenance exacte. Donc, c'était une sorte de sarcophage, en fait, hein, où il y avait une dépouille à l'intérieur. Mais bon, il paraît que la dépouille qui a été vendue en même temps que le sarcophage, la momie n'était pas vraiment la bonne. Mais bon.
Ils ont changé la momie en...
Ah ouais, se sont fait arnaquer.
Dans l'avion, ils se sont fait arnaquer. Tu sais où on trouve la statue de... Il n'y a pas une statue d'Auguste, il n'est pas marié.
Si,
il n'est pas quelque part.
Sur l'esplanade Mariette.
Ouais.
Ah bon.
Du même nom.
Ah
ouais. Une pyramide,
avec un beau parking.
Avec un beau parking payant maintenant. Merci. Vous avez bien fait d'habiter la cab.
Okay.
Parce que vous payez moins cher.
Non, c'est même gratuit.
Non,
on
ne
paye pas. C'est
gratuit, hein, c'est ça.
Non, c'est gratuit. Oui.
Ouais. Ah, le parking Mariette est gratuit pour ceux
les
qui
gens
sont...
de la cab.
D'accord.
Ouais.
Ah, je ne savais pas ça, mais merci de me le dire.
Ouais.
Donc, Mariette, il est né à Boulogne, mais il est décédé au Caire, en Égypte, du coup.
Oui.
Et vu qu'on est très, très, très chauvin à Boulogne, il y a quand même un lycée qui porte son nom, le lycée Mariette. Qui est quand même un bon lycée.
The Lycée of Mariette.
Voilà.
Bah, c'est parfait. Bah, voilà,
où Hugo a fait son BTS.
C'est ça.
Ouais. Je dis quand même. Ceci t'en parle et que c'est parce que tu le connais.
Oui, oui, oui.
Merci, Hugo.
Merci, Hugo. Alors, les infos là dans le Boulonnais pour ce mois de février. Alors, pour s'amuser, le portail propose le sport en famille par le pôle famille. De 9h à midi à la salle Charles Humé. C'est gratuit et ouvert à tous et c'est le samedi 8 février. Ensuite, je vous propose le jeudi 6 février, le Carré Sam s'exporte au théâtre Monsigny à l'occasion d'un apéro spectacle exceptionnel avec sur scène 11 musiciens et choristes pour un concert hommage à Johnny Hallyday. L'entrée est à partir de 5€ pour 1h15 de show. Si vous n'avez pas encore admiré les salles et l'ambiance de l'Embarcadère, plusieurs événements sont prévus. Pierre Garnier, Benjamin Tranier, Mesmer, Manu Payek et un rêve de ballet, le Lac des Cygnes. Et bien sûr, la chanteuse Jennifer. Ensuite, si le rythme et l'ambiance de danse africaine vous intéressent, l'association Promotion propose des cours de danse animés par le King Manaja tous les mercredis de 18h à 20h à la salle Maurice Chevalier au Portel. Retenez bien ce numéro si vous voulez vous inscrire, le 06 12 92 07 51. Et à savoir aussi l'association amicale musicale, la Concorde de Dèvres, recherche de nouveaux musiciens pour jouer dans une ambiance amicale. Tous les instruments sont les bienvenus. Tous les vendredis, donc, de 20h30 à 22h, c'est à la salle Amédée Langagne, 6 rue Catoire, espace associatif du Caraquet à Dèvres. Voilà, j'en profite aussi pour... pour embrasser Marianne, embrasser Fernande aussi, et pour cette 99e émission, de fêter une dernière fois...
La bonne année.
La
bonne année, en effet.
À toutes les équipes médicales pour leur travail et leur dévouement. Et voilà, donc c'était pour remercier un peu tout le monde.
Tous les soignants.
Tous les soignants, les psychologues, les psychiatres. Ouais. Voilà, donc est-ce que je mets les prochaines dates?
Oui, bien sûr, la prochaine émission. Donc,
alors, la prochaine émission, ce sera le samedi 22 février à 13h.
Ouais.
Et le dimanche 23 février à 15h.
Voilà, et on va terminer donc avec une pause musicale.
Voilà, choisie par Yannick. Donc, la chanteuse, c'est Marie G. Blige. Comme Marie J. Blige. De...
Ouais, tu le dis bien, tu le dis bien.
Et le titre, c'est Family...
R.
Family R.
R.
R. Family R. Eh bien, bon week-end. À bientôt.
À bientôt.
Situations at the door, so grab somebody and get your ass on the dance floor.
Let's get it.